Et maintenant, place au théâtre.
Ce troisième épisode s'ouvre sur une question. Jusqu'ici, nous avons déjà plusieurs fois évoqué le nom de Madeleine Béjart. Mais n'y a-t-il pas comme une frustration ?
Je regrette qu'on n'ait pas parlé plus d'elle dans ces entretiens.
Mais si, nous avons parlé d'elle.
Oui, lors des débuts de l'illustre théâtre. Oui.
Lors des tournées à travers la France, puis lors de la dernière étape à Rouen avant leur retour à Paris.
En 1659, mais depuis.
Oui. Bah, c'est que Madeleine, peu à peu, passe à l'arrière-plan de l'histoire de Molière.
Oh, pourquoi c'est injuste ?
Alors oui, c'est injuste. On ne parle jamais assez de Madeleine Béjart.
Madeleine !
Célèbre en son temps pour sa beauté et ses talents de tragédienne, elle joua un rôle crucial dans la vie de Molière.
J'ai bien réfléchi. Je serai acteur.
Jean-Baptiste Poquelin a rencontré la famille Béjart en 1643 et il restera lié à elle jusqu'à sa mort. Dans ce clan, Molière a épousé Armande, Armande Béjart bien sûr, mais la vraie femme de sa vie ne fut-elle pas Madeleine, sa belle-mère ? Reste à savoir ce qu'on entend par cette expression « la femme de sa vie ». Eh bien, disons une femme qui aurait changé en profondeur sa perception du monde, une femme qui l'aurait fait naître une seconde fois. Voici l'histoire d'une harmonie entre deux esprits libres du grand siècle.
Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Nous allons parler du théâtre.
Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit.
Que l'on commence !
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Molière, le chien et le loup.
Molière, vous avez su infiniment nous plaire.
Troisième épisode, Madeleine Béjart, l'audace en bandoulière.
Nous commençons aujourd'hui une histoire qui touche particulièrement les comédiens que nous sommes. Vous allez comprendre pourquoi.
Le 6 octobre 1615, Joseph Béjart, un huissier ordinaire du roi, épouse Marie Hervé, une jeune lingère effrontée, en l'église de Saint-Paul-du-Marais, à Paris.
Sanctifiez, Seigneur, cette monnaie offerte en signe de constitution du douair, et afin que l'épouse soit bien dotée, emplissez-la de la sagesse divine.
Ce mariage va accoucher d'un clan, le clan Béjart. Et cette famille s'est installée au cœur de la capitale.
Nous nous retrouvons donc à Paris, rue de la Perle, dans la maison qu'habite la famille Béjart. Maison où je demande à Denise Jean de venir s'installer, car c'est elle qui joue Marie Hervé, épouse Béjart, la mère.
Oui, dites-moi, mais c'est une grande maison.
Très grande. La famille Béjart est une famille nombreuse.
Combien d'enfants ?
10, dont 5 vivants.
Et parmi les vivants, une fille. Née en 1618, Madeleine de son prénom. Ses parents, petits bourgeois ambitieux, ont pris soin de son éducation. Alors, qui était cette Madeleine Béjart dans le Paris de la fin des années 1630 ?
Je dirais que la meilleure manière de présenter Madeleine Béjart, c'est de dire que c'est une personne qui, avant d'être comédienne...
L'historien Georges Forestier
a eu une éducation toute particulière qu'on retrouve chez les grandes courtisanes du XVIIe siècle. À 15 ans, elle savait faire des vers. On publiait des vers d'elle en tête d'une tragédie de Rotrou, la première tragédie régulière française. Donc, on s'aperçoit que cette femme, elle a un destin hors du commun, une éducation hors du commun. Et quand on lit ce qui est écrit sur elle quelques années après, dans un roman de Georges et Madeleine de Scudéry, ils la décrivent comme étant « elle était belle, elle dansait bien, elle chantait bien, elle jouait de toutes sortes d'instruments, et elle avait une conversation inimitable, etc. etc. » Et donc, on s'aperçoit que ça correspond très exactement à ce qu'étaient certaines des grandes courtisanes de l'époque, comme Marion Delorme, qui justement jouait des instruments, attirait chez elle les hommes. Et c'est peut-être cette éducation exceptionnelle qui a fait que, quand elle a commencé à devenir comédienne, avec son frère aîné Molière et sa sœur cadette, elle s'est imposée très vite comme une excellente comédienne.
Vous avez été brillante. Merci.
Comme vous nous faites pleurer avec plaisir. Bravo.
On se trouve au 19e siècle, on l'appellerait une demi-mondaine ou une semi-mondaine. Au 17e siècle, c'est une grande courtisane.
Voici le quatrain qu'elle inspira à Scudéry.
Sophonisbe, trompeuse et belle, meurt et ne meurt point du poison, mais celui que l'on reçoit d'elle, en nous laissant le jour, nous ôte la raison.
Dans quel milieu grandit cette jeune femme parisienne ?
Eh bien, un milieu de petite bourgeoisie, puisque son père, il a un office d'huissier ou d'avoué. Sa mère, elle est lingère, elle change de métier, il déménage 20 fois en 18 ans. Donc, vous voyez, il y a un côté instable dans cette famille. Le père, il fait tout le temps de mauvaises affaires, mais chaque fois, il veut essayer d'acheter une charge plus importante que la précédente, mais ça marche pas. Du coup, ils sont obligés de faire une astuce financière qui est que la femme, Marie Hervé, l'épouse du père Béjart, elle se sépare de corps de son mari pour éviter d'être entraînée dans la déconfiture éventuelle.
Dans la faillite. Mmh. On sait, Georges Forestier, qu'a priori, dès 1635, Madeleine Béjart fréquente les milieux du théâtre, notamment par sa tante.
Une demi-tante, c'est-à-dire c'est la demi-sœur de sa mère, hein, donc de Marie Hervé, elle s'appelle Marie Courtin. Elle est mariée à un petit poète qui s'appelle Jean-Baptiste Lhermitte, mais qui est le frère du grand poète Tristan Lhermitte. Donc c'est probablement par là qu'elle est rentrée dans cette orbite-là. Et puis ils ont des petits cousins, qui sont des acteurs. Parmi ces acteurs petits cousins, il y en a un qui s'appelle Lépi, c'est son surnom, c'est les frères Bedeau, et l'autre qui s'appelle Jodelet, qui est le plus célèbre acteur comique des années 30, 40 et 50.
Jodelet excellait à jouer la poltronnerie mêlée de fanfaronnade. Et la pièce de Scarron, Jodelet duelliste, ne semble avoir été écrite que pour permettre à Jodelet de jouer ce personnage de Polcon fanfaron. Et d'ailleurs, Fernand Relais va te lire un extrait de Jodelet duelliste, scène 7 de l'acte 4. Jodelet, après avoir reçu une gifle de Don Félix et une autre de son valet, se prépare à se battre. Il entre sur le théâtre, l'épée à la main, méditant sur les exigences de l'honneur espagnol.
Ah, n'est-ce pas à l'homme une grande sottise de s'aller battre, armé de sa seule chemise ? Si tant d'endroits en nous peuvent être percés, par où l'on peut aller parmi les trépassés ? Le moindre coup au cœur est une survoie pour aller chez les morts. Il est ainsi du foie, le rognon n'est pas sain quand il est entrouvert. Le poumon n'agit point quand il est découvert. Une artère coupée, Dieu, ce penser me tue. J'aimerais bien autant boire de la ciguë. Un œil crevé, mon Dieu, que viens-je faire ici ?
Ces cercles de comédiens parisiens que fréquente assidûment la jeune Madeleine Béjart la conduisent jusqu'au comte de Modène. Ce Modène fut un seigneur puissant, élevé avec Gaston d'Orléans, dont il est devenu le chambellan. Pour mémoire, Gaston d'Orléans fut le frère de Louis XIII. Et ce comte de Modène dépense son temps dans des salons mondains où l'on joue la comédie et où il croise l'éclat de Madeleine Béjart. Je vous laisse deviner la nature de leur relation.
Eh bien, des relations très intimes, puisque cette vie adultérine qui mène pendant plusieurs années les conduit à avoir en 1638 une enfant qui est baptisée à l'église Saint-Eustache et reconnue par le comte de Modène, donc enfant adultérine, puisqu'il est marié. Et bon, l'église accepte de baptiser cet enfant. Apparemment, elle est baptisée Françoise.
Oui, petite, ça peut être fidèle, 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 fidèle.
Et puis on n'entend plus jamais parler de Françoise. Ça veut dire que, comme tant d'autres enfants, elle est morte en très bas âge. Et puis, il y a un deuxième enfant.
1642-1643.
Un deuxième enfant qui va être déclaré comme la fille de Marie Hervé et de Joseph Béjart, le père, va induire en erreur des générations d'historiens à partir du 18e-19e siècle.
Ah, un moment.
Qu'est-ce qui se passe ?
Peux-tu me dire si Madeleine est ma mère ou ma sœur ?
Mais pourquoi tu me demandes ça ?
Selon l'endroit où nous sommes et les personnes que nous rencontrons, on la présente tantôt comme l'une et tantôt comme l'autre.
Eh oui. On va longtemps penser, chez les historiens, que ce second enfant de Madeleine ne fut pas sa fille, mais sa jeune sœur. Pour quelle raison ? Parce qu'à l'époque, le comte de Modène ne peut reconnaître cet enfant. Il traverse une mauvaise passe financière et il compte sur son épouse légitime.
Et désormais, sa femme, qui cautionnait ses problèmes d'argent ne serait-ce que par son nom et sa signature, évidemment, elle ne va pas encore cautionner cet homme qui va lui présenter un deuxième enfant adultérin. Et donc, du coup, cet enfant adultérin, il ne la reconnaît pas. C'est ainsi que la grand-mère, Marie-Hervé, épouse Béjart, va le reconnaître. L'astuce, ça a été de ne pas donner de baptême à cet enfant. On l'a ondoyé et on a attendu qu'elle soit assez grande pour qu'on ne puisse plus faire la différence entre l'enfant de 2 ans, 3 ans et un enfant de 4 ans, 5 ans, de façon à authentifier cette naissance antérieure qu'on lui prête.
Je te baptise.
Cette seconde fille, née de Madeleine et du comte de Modène, qu'on ne baptisera que bien plus tard, portera le prénom d'Armande, la future épouse de Molière.
Amen.
Et quand Jean-Baptiste Poquelin rencontra-t-il Madeleine Béjart?
Ça, nul document authentique n'a jusqu'ici permis de le dire.
En effet, on ignore où et comment se sont rencontrés Madeleine et Jean-Baptiste Poquelin. À Paris, sans doute. Ou à la faculté de droit d'Orléans, peut-être. À vrai dire, on n'en sait rien. On imagine que le jeune fils de tapissier fut aussitôt subjugué.
Eh bien, entrez, monsieur.
Par la maîtresse magnétique d'un grand aristocrate.
Et fermez la porte, je vous prie. Et ne restez pas debout, je vous prie.
Comment est-ce que vous pourriez décrire ce duo Madeleine Béjart, Jean-Baptiste Poquelin?
C'est difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de documents sur les débuts, mais en tout cas on sait que précisément sa qualité d'actrice qui s'est imposée tout de suite lorsque la troupe de l'Illustre Théâtre a été créée, donc au cours de l'année 44, a fait qu'elle a été réclamée par les autres troupes, et quand la troupe a fait faillite et qu'ils sont partis en 46 sur les routes avec la troupe de Dufresne, c'était Madeleine Béjart avec les autres. Et parmi les autres, il y avait ce jeune qui tenait les premiers rôles déjà, parallèlement ou en concurrence avec son frère Joseph. Et on va s'apercevoir que le frère Joseph, assez vite, il passe au second plan. En plus, il est affecté d'un bégaiement, donc il va quelque temps essayer de corriger son bégaiement. Il se retire un peu de la troupe, puis il revient. Et en fait, la troupe, elle est tenue par un duo qui est Molière et Madeleine. Alors, il y a une explication aussi, c'est que il y a un clan qui s'est formé à l'intérieur de la troupe. C'est pas seulement Madeleine, c'est son frère aîné, c'est le petit Louis qui arrive à l'âge de 16 ans avec la mère Marie-Hervé, veuve, avec son petit qui rejoint la troupe. Et le petit Louis, il devient acteur à part entière tout de suite. Donc voilà, ça fait un ensemble qui fait qu'on s'aperçoit que les décisions sont prises par les Béjart et Molière. Et qui dit les Béjart et Molière, dit Molière et Madeleine.
Madeleine!
Oui?
Je voudrais essayer l'acoustique, récite-moi quelques vers.
Je me mets où?
Contre le mur du fond!
Ici?
Voilà, c'est ça.
Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome à qui vient ton bras d'immoler mon amant. Rome qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Rome enfin que je hais.
Il y a de l'écho, hein? Mets-toi plus à gauche.
Attends.
Il faut dire aussi un mot de son sens des affaires. Georges Forestier, c'est une redoutable femme d'affaires.
Alors, redoutable, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'on s'aperçoit qu'au bout de quelques années, ils étaient tous endettés après la déconfiture de l'Illustre Théâtre, et qu'en quelques années, elle est capable de recommencer à prêter de l'argent à 5%, c'était le taux habituel. Hein. Ensuite, elle va se lancer dans des petites entreprises, investir dans des affaires de tannerie 15 ans plus tard, lorsqu'ils seront rentrés à Paris. Et quand elle meurt, elle est à la tête d'une fortune absolument considérable. Plusieurs dizaines de milliers de livres. Ce qui est considérable, si vous multipliez les livres par 11 pour arriver à des euros actuels.
Une fortune.
Une fortune. Mmh. Et évidemment, qui va être la légataire universelle? C'est Armande, sa fille.
Oui, et non pas sa sœur.
Et non, sinon ça aurait été partagé entre les trois frères et sœurs qui survivaient à ce moment-là. Mais là, c'est sa fille.
Alors, à partir de 1643, Molière entame sans doute une relation intime avec Madeleine Béjart. Mais depuis 3 siècles, on a beaucoup caricaturé cette idylle.
Tu es belle, tu as pris des hanches, des seins, tu es superbe.
Parfois même jusqu'au ridicule.
Oui, j'ai un peu grossi ces derniers temps. Qu'est-ce qui te prend?
Rien, une méchante idée. Que tu avais revu le duc de Modène, que tu m'avais trompé. Tu étais enceinte. Certains naissent bancal ou boiteux, moi je suis né jaloux.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire réellement des sentiments qu'ont échangé la Béjart et le Poquelin?
On ne peut faire que des hypothèses. L'hypothèse, c'est celle d'une fascination amoureuse de la part du jeune bourgeois en rupture de ban, puisqu'il se lance dans la troupe de théâtre avec le frère aîné et toute une petite équipe. Et donc, qu'il soit fasciné par cette femme avec tous ses talents, le fait qu'elle sorte d'une aventure amoureuse romanesque avec ce grand seigneur-là, qui est à ce moment-là exilé dans son château à Modène. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Je me mets à la place de Madeleine. Quand on sort d'une telle aventure avec cet homme aventureux, romanesque, qui va partir bientôt, il va le rester romanesque, puisqu'il va partir donc délivrer Naples avec le duc de Guise, enfin une expédition un peu folle. Bon bref, quand on sort des bras de cet homme-là, en plus, après avoir eu deux enfants avec lui, dont un enfant vivant, il paraît difficile de tomber amoureuse folle d'un jeune garçon qui n'a rien, si ce n'est probablement une aura déjà très nette, hein, et un ascendant sur les gens auxquels il parle, mais quand même. Et je m'explique aussi comme ça le fait que 20 ans plus tard, elle est acceptée, manifestement, sans réticence, même si elle a d'abord tenu éloignée Armande du théâtre, parce qu'elle était la fille d'un grand seigneur. Mais ensuite, elle a accepté ce mariage avec Molière. Si c'était passé une passion folle entre Molière et elle, elle n'aurait sûrement pas supporté. Une mère ne supporte pas que son ancien amant avec qui on a une passion folle épouse sa propre fille. Tandis que cette aventure amoureuse qui s'est déroulée pendant, on ne sait pas, 1, 2, 3 ans, qui s'est transformée en amitié indéfectible, on comprend là comment ça a pu se passer, comment ça a pu se déliter progressivement avec la vie de la troupe, avec d'autres rencontres, etc. Parce qu'il n'y avait pas d'amour extrêmement profond. Et comment ensuite, ils ont pu rester les meilleurs, les plus puissants amis du monde jusqu'à la mort de Madeleine en 1672.
Jean, je suis ta vieille amie. Je t'aime, je suis ta femme. Quand nous avons fondé l'illustre théâtre, tous les deux, tu ne savais rien, mon petit tapissier. C'est moi qui t'ai tout appris. Tu as des yeux de comique, une bouche de comique, des épaules, une démarche de comique.
Dis tout de suite que je suis ridicule. Eh bien, franchise pour franchise, moi je vais te dire quelque chose. Tu es trop marqué maintenant pour jouer la Odysse.
Ah, Jean.
Madeleine. Ma petite Madeleine, je voulais pas te faire mal. Mais tu m'as appris à être dur et lucide pour tout. À tout regarder en face, toujours. Il faut laisser les rôles de jeune fille. Il y a d'autres rôles.
Oh, ce n'est pas ça. C'est ton regard. M'a semblé que tu me quittais.
Madeleine Béjart fut une des portes d'entrée de Molière vers le théâtre.
Maintenant, travaillons. Mademoiselle Hervé, Mademoiselle de Brie en scène, la répétition commence.
Mais plus encore, on peut penser que son esprit libre et son audace ont profondément marqué Molière, y compris peut-être dans l'écriture de ses premiers succès parisiens.
Ma réponse aux beaux esprits, c'est une comédie que je viens d'écrire et qui s'appellera « Les précieuses ridicules ». Bon, les deux jeunes gens sont amoureux de deux jeunes femmes, Catos et Madelon, qui sont de terribles précieuses et qui refusent l'idée de mariage. Mademoiselle Debré, Mademoiselle Béjart, vous serez ces deux ridicules. Voici les rôles. Madeleine joue Madelon et Catherine Merci. Debré, Catos.
Oui, alors, où commençons-nous?
Pour vous donner une idée du langage des précieuses, oui. Prenez dans la scène où elles parlent mariage. Tenez, voici, ici.
Là,
okay. Et vous ici, oui. Voilà.
Alors, il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. Mais en venir de but en blanc à l'union conjugale, ne faire l'amour qu'en faisant le contrat du mariage et prendre justement le roman par la queue, le moyen de bien recevoir des gens qui sont tout à fait incongrus en galanterie.
Je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte du tendre et que billet doux, petit soin, billet galant et joli vert sont des terres inconnues pour eux.
Bon, vous voyez les personnages. Parfait.
Venez viens voir Paris.
Lorsqu'ils reviennent à Paris avec leur troupe en 1658, après 12 années passées en province, Molière et Madeleine connaissent un succès fulgurant, et notamment grâce à trois pièces : Les Précieuses Ridicules, L'École des Maris et L'École des Femmes. Trois pièces donc où il est beaucoup question des femmes. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, Molière, de ce point de vue-là, est tout à fait en harmonie avec son temps.
Lise Michel est historienne.
C'est quelqu'un qui lit beaucoup la littérature galante, dont le public lit aussi beaucoup la littérature galante. Donc c'est vraiment la question des femmes, de la condition féminine, c'est vraiment au cœur de la littérature galante. C'est le sujet des grands romans des années 1650, de Madeleine de Scudéry, par exemple. Donc c'est vraiment un sujet qui est dans l'air du temps et tout ce qui se pratique dans les cercles galants sur des questions de comportement amoureux, de casuistique dans les comportements amoureux, par exemple. Est-ce qu'il vaut mieux voir son amant mort ou infidèle ? Est-ce que pour garder une femme, il vaut mieux la détourner de tous les autres hommes ou au contraire la mettre en contact avec le plus d'hommes possible pour qu'elle ait une connaissance du monde et qu'elle choisisse en connaissance de cause, etc. Donc toutes ces questions-là, qui sont celles en fait des premières comédies de Molière, elles sont vraiment dans tout ce substrat de littérature galante qu'il fréquente et que son public fréquente beaucoup. C'est vraiment un sujet dans l'air du temps.
Dans ces trois premières pièce, Lise Michel, on peut avoir le sentiment qu'il se moque des femmes, Molière, qu'il les représente de manière un peu ridicule, comme une sorte de misogynie. Qu'est-ce que ça signifie, sous la plume de Molière, cette fausse misogynie en réalité ?
Rien de misogyne dans ces pièces, je dirais presque au contraire. En réalité, les discours misogynes qu'on trouve dans l'œuvre de Molière font vraiment beaucoup rire aussi bien les hommes que les femmes. Ça s'inscrit vraiment dans une mode beaucoup plus générale dans les années 1660. On fait ressurgir des idées complètement démodées, complètement décalées par rapport à la mentalité dominante. L'idée que la femme est un animal difficile à connaître, dont les humeurs sont directement axées sur celles de la lune, ce genre de choses. Donc ce sont des plaisanteries. Il y avait beaucoup de ces plaisanteries-là en France, dans la littérature facétieuse des années entre 1610 et 1625. C'était vraiment la grande période de ces plaisanteries-là. Et puis Molière les fait ressurgir dans ses comédies au second degré, justement parce que ce n'est pas du tout conforme aux idées des galants. Lorsque Molière aborde ces sujets-là, c'est aussi une manière de susciter la réflexion sur des réelles questions de société, sur un mode burlesque. Par exemple, lorsque dans le Cocu imaginaire, la femme de Sganarelle se lamente, elle dit « Ah, que j'ai de regrets que la loi n'autorise de changer de mari comme on fait de chemise. » Donc cette idée que la femme pourrait éventuellement changer de partenaire si elle n'est pas satisfaite. Voilà, cette idée-là qui est présentée sur un mode burlesque, elle correspond vraiment à des idées qui sont défendues de façon beaucoup plus sérieuse dans certains traités de l'époque. Et donc c'est aussi une manière, par l'humour, de faire surgir certaines thématiques contemporaines importantes.
La femme doit avoir quatre qualités. Honnête en son allure, soigneuse en son ménage, dévote à l'église et obéissante à son maître.
Au XVIIe siècle, la condition de la femme pose des questions à la société mondaine de l'époque. Molière s'en inspire, mais il se nourrit aussi de sa propre expérience.
Et il faut savoir aussi que la liberté est consubstantielle aux troupes de comédiens à l'époque. Le premier auteur à avoir écrit une histoire du théâtre français, ça s'appelle Le Théâtre français, Chapuzot, Samuel Chapuzot, que Molière et la troupe vont rencontrer à Lyon, dans son Théâtre français qu'il publie en 1674, un an après la mort de Molière, il nous dit que la seule république de son temps, de nos jours, dit-il, ce sont les troupes de comédiens. Parce qu'il y a une égalité absolue entre les acteurs et les actrices, entre les hommes et les femmes, entre ceux qui ont part entière et qui ont droit au vote, aux décisions, etc. Et ça, l'émancipation féminine, elle est depuis le début des troupes de théâtre. Mais ensuite, Molière, quand il arrive à Paris, qu'est-ce qu'il rencontre ? Il rencontre un milieu qui est celui des salons. les salons sont tenus par les dames. Ces fameux salons galants qui sont tenus par les dames galantes au sens noble du terme, c'est-à-dire celles qui recherchent la distinction, l'élégance, mais aussi le jeu, l'enjouement, l'autodérision. On y parle littérature, on y parle poésie. Lorsqu'un grand militaire est invité dans le salon, il laisse son épée au vestiaire. Lorsqu'un poète vient au salon, il laisse ses poèmes au vestiaire, sauf si on le demande de réciter ses poèmes. C'est pour ça que Molière, dans Misanthrope, il joue avec la première scène où Oronte veut à toute force déclamer son poème à Alceste. Et ça, c'est le contraire de ce qu'on doit faire dans les salons. C'est une attitude non honnête. Et donc, quand il fréquente ces salons, qu'est-ce qu'il y a la particularité dans ces salons? C'est qu'ils sont tenus par ces dames. Les hommes rendent hommage aux dames et les dames professent qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, qu'il faut absolument établir l'égalité entre les hommes et les femmes, il faut donner de l'éducation aux femmes. Et donc, ce mouvement naturel qu'avait Molière à cause de sa vie dans les troupes de comédiens où les femmes sont sur le même plan que les hommes rencontre une aspiration et une pratique dans les salons, mais une aspiration générale des femmes des milieux mondains pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc il y a vraiment une osmose qui se produit à ce moment-là, qui explique la thématique de ces œuvres-là. Parce que dans les salons, précisément, qu'est-ce qu'on avait en horreur? Le bourgeois traditionnel qui considérait que la femme était inférieure à lui, sans parler de ceux qui considéraient que, ayant été la descendante de Ève, elle était l'incarnation du diable et le danger absolu, mais ça c'est le cas. C'est pour ça qu'elle est dangereuse, qu'elle veut faire cocu, le mari, etc., qu'il faut s'en méfier. Et donc, dans les salons, on a en horreur ce type de bourgeois. D'où le fait que Molière va en faire le héros de deux de ses pièces les plus merveilleuses, qui sont l'École des maris et l'École des femmes. C'est parce que c'est le même type de personnes qui sont en abomination dans les salons et qui donnent donc des sujets de personnages ridicules qui vont faire rire les salons et qui vont faire rire évidemment la salle de spectacle dans laquelle il y a beaucoup de bourgeois qui fréquentent ceux qui sont le plus huppés, les salons, mais aussi des bourgeois qui rêvent d'imiter le comportement des personnes galantes, aussi bien les hommes que les femmes, et qui rient de ce que les autres rient. Et en plus, on le voit bien nous-mêmes quand on va voir des humoristes qui nous font rire de nos valeurs et de nos comportements, que très souvent nous rions alors même que nous nous comportons comme ça. Donc ça ne pouvait que marcher.
Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir. En vous le produisant, je ne crains point le blâme d'avoir admis chez vous un profane, madame. Il peut tenir son coin parmi les beaux esprits.
La main qui le présente en dit assez le prix.
Il a des vieux auteurs la pleine intelligence, et c'est du grec, madame, autant comme de France.
Du grec? Au ciel, du grec! Il sait du grec, ma sœur.
Oh, ma nièce, du grec.
Du grec.
Quelle douceur.
Quoi? Monsieur sait du grec? Oh, permettez de grâce que pour l'amour du grec, monsieur, l'on vous embrasse.
Avec Les femmes savantes, une pièce écrite sur la fin de sa vie, on pourrait penser que Molière finit par se moquer des femmes qui ont reçu une instruction théorique. Qu'en est-il vraiment?
Les femmes savantes ont un côté un peu plus ambigu, peut-être, que d'autres pièces. D'abord, il se moque surtout de la pédanterie et des femmes qui s'entichent des dernières théories à la mode, donc que ce soit scientifique, grammaticale, etc. Après, en proposant une pédanterie au féminin, en quelque sorte, il redouble le comique du pédant, parce que les femmes incarne les valeurs de l'honnêteté, du savoir-vivre. Donc une femme qui est pédante, en quelque sorte, c'est presque plus amusant encore et plus ridicule encore qu'un homme pédant, parce que par excellence, les femmes ne doivent pas être pédantes dans cette société-là. Et voilà, après, là où il y a une ambiguïté, effectivement, pour notre regard actuel sur les femmes savantes, c'est que même si la réflexion sur l'égalité des hommes et des femmes, sur l'accès à l'éducation est vraiment en marche dans ces années-là, on n'en est pas à penser qu'une femme peut être grammairienne, on n'en est pas à penser qu'une femme peut être astronome. Voilà, donc effectivement, il y a un ressort du comique qui peut nous paraître aujourd'hui un peu presque réactionnaire, mais qui, dans son temps, ne l'était pas, qui est de placer ces femmes, enfin que le sujet qui rend ces femmes pédantes soit de surcroît celui de ces domaines qui, dans les faits, sont réservés aux hommes. Ce qui ne veut pas dire qu'ils défendent le fait qu'elles ne doivent pas accéder à ces domaines-là. Mais disons, le ressort du comique vient du fait que dans les faits, elle commence à accéder à beaucoup d'autres domaines, mais pas ceux-là.
Le danger, avec une telle subtilité, c'est qu'on peut détourner aisément les intentions de Molière au profit de ce qu'on a envie de faire passer comme message. Écoutez cette archive de 1951 dans une France où il est question de la condition de la femme au foyer.
En effet, Molière, dans Les femmes savantes, Les précieuses ridicules, avait montré l'inconvénient de l'instruction trop théorique chez la femme qui devait rester au foyer et diriger sa maison. L'ensemble de la bourgeoisie avait adopté les critiques de Molière et en avait conclu que pour bien vivre, la jeune fille n'avait pas besoin d'instruction et que son intuition suppléerait à tout. Or, Fénelon eut l'idée de rénover complètement l'éducation des filles et d'entrer en lutte contre le préjugé qui prétendait que l'instruction rend toujours les filles sottes. Il affirmait que si les hommes savent établir les lois, les femmes, elles, peuvent créer les mœurs. Il disait que, d'abord, le premier rôle de la femme, c'était d'être épouse et mère. Vertu et religion doivent y conduire, et il ajoutait que le bonheur du mari dépendait non seulement de l'agrément du foyer, mais encore de l'intelligence et du savoir approprié dont pouvait faire montre sa compagne. Il est à remarquer que certaines des idées de l'archevêque de Cambrai étaient très en avance, non seulement sur son temps, mais encore sur le nôtre.
À la fin du XVIIe siècle, donc, Monseigneur Fénelon s'appuie sur les pièces féminines de Molière pour en tirer des conclusions exactement contraires, conclusions entretenues jusqu'au XXe siècle. Alors, au fond, avec ces pièces consacrées aux femmes, quelle était l'ambition de Molière ?
Alors, certainement de faire rire. Après, la manière dont Molière fait rire consiste à greffer aussi ces sujets-là sur des questions d'actualité. Finalement, ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans le comique qui tourne autour des personnages féminins chez Molière, c'est que ce n'est pas tant la condition féminine en tant que telle qui est l'objet que le fait de confronter cette condition féminine à des situations ou à des questions d'actualité.
Est-ce que vous diriez que ces pièces de Molière, lorsqu'elles parlent des femmes, ont pu faire évoluer certaines mentalités quant à la condition de la femme au XVIIe siècle ?
C'est possible. Je pense qu'il ne faut pas l'imaginer comme un héros isolé d'une cause révolutionnaire, mais il a certainement contribué à cette réflexion générale sur la question du mariage, des relations amoureuses, du choix, de l'égalité entre hommes et femmes. Il a certainement contribué, en tout cas. Je pense qu'il est le premier à avoir, à ce point, fait rire un public féminin avec des personnages féminins. C'est-à-dire avoir vraiment fait rire les femmes de comportement féminin, en fait.
Vraiment, c'est bien tard que...
Oh, de grâce, ma chère, faites-moi vite donner un siège.
Un fauteuil, promptement.
Oh, mon Dieu.
Qu'est-ce donc?
Je n'en puis plus.
Qu'avez-vous?
Le cœur me manque.
Sont-ce vapeurs qui vous ont pris?
Non.
Quel est donc votre mal? Et depuis quand vous a-t-il pris?
Il y a plus de 3 heures, je l'ai rapporté du Palais Royal.
Comment?
Je viens de voir, pour mes péchés, cette méchante rhapsodie de l'école des femmes. Je suis encore en défaillance du mal de cœur que cela m'a donné. Et je pense que je n'en reviendrai de plus de 15 jours.
Je ne sais pas de quel tempérament nous sommes, ma cousine et moi, mais nous fûmes avant-hier à la même pièce et nous en revînmes toutes deux saines et gaillardes.
Quoi ? Vous l'avez vue ?
Oui, et écoutée d'un bout à l'autre.
Et vous n'en avez pas été jusque aux convulsions, ma chère ?
Je ne suis pas si délicate, Dieu merci. Et je trouve pour moi que cette comédie serait plutôt capable de guérir les gens que de les rendre malades.
Oh, mon Dieu, que dites-vous là ?
Pour dire ma pensée, je tiens cette comédie une des plus plaisantes que l'auteur ait produite.
Oh, vous me faites pitié de parler ainsi. Peut-on, ayant de la vertu, trouver de l'agrément dans une pièce qui tient sans cesse la pudeur en alarme ?
Je frappe les 3 coups.
Explorons maintenant la relation de Molière avec son épouse, Armande Béjart.
Premier décor. Une maison des environs de Nîmes, un jour de février 1653. Une maison très simple, à l'entrée d'un village avec un petit bout de jardin, un potager, 3 lapins dans un clapier, quelques poules et des chats. Dans cette maison vivent une femme très gentille et une petite fille de 11 ans. La femme très gentille, je ne sais pas son véritable nom, je propose de l'appeler Madame Camille et je l'installe dans sa cuisine. Denise Benoît, s'il vous plaît.
Oui, voilà. Que fait-elle, cette femme?
Voilà, avant toute chose, elle a l'accent de Nîmes.
Ah.
C'est un bel accent, bien éclatante. À cette époque, dans les provinces, on ne cherchait pas à imiter les dames de Paris. Quand on avait du soleil dans la voix, on en était fier et on le gardait.
Alors, il faut que je me chante les syllabes.
Voilà, exactement.
Bon, et cette cuisine, c'est pourquoi que je m'y installe? Hein,
parce que vous passez vos journées à mijoter des petits plats.
Et qu'est-ce que je suis alors, cuisinière?
Non, pas vraiment. Vous avez perdu votre mari très tôt. Et pour vivre, vous prenez des enfants en pension.
Si je comprends bien, cette fillette de 11 ans dont vous avez parlé tout à l'heure, ce n'est pas ma fille.
Ah non. Cette fillette de 11 ans, c'est Armande, la plus jeune des enfants Béjart.
Cette histoire de nourrice est charmante. Mais une fois encore, on se confronte au mystère de la vie de Molière. Toujours par manque de sources, on a à nouveau raconté des tas de choses sur la jeunesse d'Armande Béjart. D'abord, rappelons qu'elle fut la fille de Madeleine, et non sa sœur. Pour le reste, que sait-on?
Alors, traditionnellement, on l'imagine courant des basques de Molière aux jupes de sa mère, tournant dans la troupe et devenant naturellement comédienne après. Mais il se trouve que lorsqu'on observe les signatures que l'on possède de la troupe dans les années 1650, c'est-à-dire quand la troupe est en province, et dans les années 1660, on s'aperçoit qu'elle apparaît véritablement, elle surgit en 1661. Pas de traces avant. On parlait tout à l'heure de Louis Béjart, il arrive avec sa mère, 16 ans, crac, il devient comédien. L'un de ceux qu'on va engager pour remplacer précisément Louis Béjart qui prend sa retraite, eh bien on va faire venir un petit prodige qui s'appelle Baron, Michel Baron. Hein. Michel Baron, il est devenu professionnel à l'âge de 12 ans, parce que son père était comédien professionnel, et sa mère, Jeanne Ozout, la plus célèbre comédienne professionnelle de son temps. Donc quand on a un père et une mère comédienne professionnelle, on devient comédien professionnel dans son plus jeune âge. Armande Béjart, qui va devenir comédienne, pourquoi elle ne devient pas comédienne dès l'âge de 12 ans ou 13 ans, ou quelque chose comme ça? Elle apparaît, elle surgit en 1661. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'elle épouse Molière pour pouvoir faire du théâtre. Parce que jusqu'alors, Madeleine lui avait interdit cela, et parce que Madeleine l'avait fait élever loin du théâtre, parce qu'elle était la fille de Esprit Raymond, comte de Modène, et qu'une fille de grand seigneur, elle ne va pas se mettre à faire du théâtre, sauf si un jour, elle se marie, et qu'à ce moment-là, le mari lui fera faire ce qu'il voudra. Mais là, avant, non. Et donc, elle a été élevée dans une série d'institutions religieuses, puisque de toute façon, les filles recevaient un début d'éducation dans les institutions religieuses.
Ah, je crois qu'ils arrivent. Et les Béjart sont tous ensemble.
Et ton père, Molière, il est là?
Il est déjà dans l'église. Ah. Il trouve qu'il fait moins froid que dehors.
Comment te sens-tu, Jean-Baptiste? Pas trop ému?
Très ému, Marquise.
Monsieur Poquelin, sortez un instant pour prendre le bras de votre belle-fille.
Et toi, Jean-Baptiste, qui est-ce qui va te conduire à l'hôtel? C'est quand même pas Madeleine.
Non, n'aie pas peur. C'est Marie-Hervé qui me conduit. Allez, tout le monde derrière moi. Lully a déjà commencé à jouer.
Jean-Baptiste Poquelin, fils de Jean Poquelin et de feu Marie Cresset. Voulez-vous prendre pour légitime épouse Armande Grésinde Claire Elisabeth Béjart ici présente, selon le rite de notre mère la Sainte Église?
Oui, je le veux.
Armande Grésinde Claire Elisabeth Béjart, fille de Marie Béjart née Hervé et de feu Joseph Béjart, voulez-vous prendre pour légitime époux Jean-Baptiste Poquelin ici présent, selon le rite de notre mère la Sainte Église?
Oui, je le veux.
Ego coniugo vos in matrimonium, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
En 1662, Molière donc épouse Armande Béjart, la fille de Madeleine. Comment la troupe réagit à ce mariage, Georges Forestier?
Il se trouve qu'on joue un mauvais tour à Molière. Mais non pas que c'est un refus du mariage, mais le mauvais tour est le suivant. C'est que Molière, à force de jouer des rôles de plus en plus importants, et à force que toutes les recettes du théâtre reposent de plus en plus sur lui, il a demandé à avoir une double part de la recette. Non pas une part comme tous les autres, mais avoir deux parts. Et on lui a répondu qu'on lui accordait cette deuxième part. Mais que s'il se mariait, lui et sa femme, sous-entendu avec une femme comédienne, parce que bon, le couple aura deux parts.
Et donc pas une troisième part.
Voilà, on voit le calcul des autres. C'est-à-dire qu'on savait que sûrement ça allait être Armande, une Béjart encore. Donc vous imaginez si Molière, deux parts, une nouvelle Béjart avec une part qui entre, Madeleine, sa part, Louis, sa part, Geneviève, sa part, et à eux six, ils tiennent, alors sans parler des amis proches comme Catherine Debris, etc., mais à eux six, c'est eux. Donc du coup, ils ont dit non. Mais apparemment, elle a été bien accueillie, puisque d'abord, elle ne pouvait pas ne pas l'être avec le clan Béjart. Mais ensuite, très vite, elle se met à avoir des premiers rôles. En 62, on ne sait pas ce qu'elle joue, peut-être dans des reprises. En 63, elle apparaît pour la première fois dans une création qui est la critique de l'École des femmes, où elle joue la jeune cousine de sa mère, en quelque sorte. Et puis, à partir de 64, c'est elle qui crée le rôle d'Elmire dans Tartuffe, et c'est parti. Au même moment, au printemps 64, une grande pièce machine pour la cour dans les grands spectacles demandés par Louis XIV qui s'appelle « Les plaisirs de l'île enchantée ». Il y a donc Molière écrit cette comédie qui s'appelle « La princesse des Lides ». Qui joue le rôle de la princesse des Lides ? Armande. Et donc, c'est intéressant de voir qu'elle prend aussitôt le relais de Madeleine. Madeleine se retire et au même moment que fait Madeleine, elle commence à jouer les servantes.
Cela dit, si la troupe des comédiens et le clan Béjart ont entériné ce mariage, il fut très vite la cible d'attaques violentes de la part des contradicteurs de Molière.
J'étais ce soir à votre pièce, monsieur. Je me suis fort ennuyé. Aussi puis-je vous suggérer d'en changer le titre. L'école des putains serait plus saillant. Vous ne pensez pas ?
Vous riez de tout, le monde s'écroule. L'autorité est bafouée. On moque la liturgie, les commandements, l'Église.
Mais tu seras cocu, toi aussi, nègre.
Vous passez la mesure, monsieur.
Laisse donc faire qu'on corrige enfin. Ça fait 10 ans que j'attends ça.
Cessez, monsieur.
Mais quel âge a donc ta femme? Après la mère, il te fallait la fille.
Ne perdez pas votre temps, monsieur.
Encore en faveur, mais méfie-toi. Le roi, oublie vite.
Au XVIIe siècle, dans une société religieuse, régie par la Bible et le Nouveau Testament, ce qui n'est pas normal dans le mariage de Molière, c'est d'avoir épousé la fille après avoir autrefois couché avec la mère. Parce que la Bible et les évangiles disent qu'on ne peut pas se marier avec la fille d'une femme avec laquelle on a eu des relations charnelles ou avec laquelle on a été marié. Qu'est-ce que peuvent faire les comédiens ? N'importe quoi contre la morale, et même épouser sa propre fille. Mais ça veut dire que ça repose sur quoi ? Sur très probablement des plaisanteries qui ont couru à l'époque, chez tous ceux qui savaient que Madeleine avait eu une fille et qu'Armande, c'est pas du tout la sœur cadette de Madeleine et la fille de Marie-Hervé, mais que c'était la fille de Madeleine. Donc il y a eu des plaisanteries à ce moment-là, qui ensuite se sont envenimées lorsque, dans les années 80, il y a eu des pamphlets contre Armande, veuve de Molière, qu'on a accusée d'être, comme toutes les comédiennes, femme de tout le monde, et que quand son mari vivait, eh bien, elle a trompé son mari, on l'appelait même, elle a trompé celui qui était à la fois son père et son mari, elle couchait avec tous les autres hommes, plutôt qu'avec son mari et son père. On a des textes comme ça, mais c'est bien après la mort de Molière. C'est un moment où il y a des pamphlets contre beaucoup de comédiennes et évidemment contre l'une des plus célèbres d'entre elles qui est Armande, veuve de Molière. Mais alors, est-ce qu'on a critiqué Molière pour avoir épousé une fille qui avait 20 ans de moins que lui et 21 ans de moins que lui ? Pas du tout, parce qu'à l'époque, vu comment les femmes tombaient comme des mouches en couche, eh bien le nombre de veuves qui se remariaient avec de jeunes femmes était absolument considérable. Et donc l'écart d'âge de 21 ans, c'était, il n'y avait absolument rien. Mais évidemment, Molière en joue. Molière en joue puisqu'il présente, avant même son mariage, avant même d'y songer, hein, déjà dans Sganarelle ou Le Cocu Imaginaire, il joue sur cette idée que le Barbon, eh bien, il est jaloux de la jeune femme, il veut épouser la jeune femme. Sganarelle, dans L'École des Moiries, il veut épouser la jeune femme. Et donc, du coup, on prête à Molière des inquiétudes devant la légèreté éventuelle de sa femme. Et en fait, on fait de Molière un de ses personnages de comédie.
Malgré les avanies, les attaques et les dénigrements, ce match a tenu bon, puisqu'elle va aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la vie, Armande. Elle va accompagner Molière jusque dans la mort, et elle a un rôle très important sur la fin de la vie de Molière.
Écoutez, il y a, en 1670, un texte qui paraît qui s'appelle « Elomir Hypocondre ».
Elomir Hypocondre.
Voilà, Elomir, c'est un anagramme de Molière, hein, qui est une comédie en 5 actes qui n'a jamais été représentée. C'est une comédie satire qui s'attaque à Molière, qui le montre fou, hypochondriaque, etc., etc. Et Et le montre au milieu de sa troupe. Il est ridiculisé par sa troupe. C'est, en fait, c'est l'inversion de l'imprévu de Versailles où il est adulé par sa troupe. Et il est entouré par qui ? Mais par une femme qui le respecte, qui l'aime. Alors même que lui dit, dans sa folie, je suis malade, je tousse, etc. Mais elle lui dit, mais non, vous êtes gros et gras, le teint frais, la bouche vermeille, quasiment comme Tartuffe. Et vous ne toussez point, c'est dans votre tête, mon cher mari, et qui le protège tout le temps. Et donc, dans un pamphlet qui cherche à ridiculiser Molière, s'il y avait une once de bruit, on est en 1670, une once de bruit sur quelque infidélité ou quelque tiraillement dans le couple, ce serait sorti. Ça n'est pas sorti. Ça sort 15 ans après la mort de Molière dans des pamphlets postérieurs. Donc, c'est un couple qui, en plus, qui régulièrement à des enfants. Alors, il y en a qui ont inventé le fait que cet enfant, le petit Pierre, qui naît en 1672, quelques mois avant la mort de Molière, qui meurt au bout de 8 jours ou 10 jours, je ne sais plus exactement, eh bien, ce petit Pierre, on dit, c'est l'enfant de la réconciliation. Mais il n'y a pas eu de séparation, ni quoi que ce soit. Tout ça, c'est de l'invention romanesque postérieure. Qui est-ce qui invente aussi ça ? Outre ceux qui écrivent des pamphlets anti-Armande, qui prétendent que c'est à cause de ses infidélités que Molière est tombé malade, eh bien cette idée-là, on va la voir réapparaître dans la première vie de M. de Molière de Grimaret, qui est que Molière est tombé malade, en grande partie, à cause des soucis du théâtre et des soucis de son ménage, alors qu'il n'y a rien de vrai là-dessous.
Oui ? Quelqu'un arrive de Paris pour vous.
Vous me reconnaissez, monsieur ? Je suis Coutan, votre voisin.
Que se passe-t-il ?
Madeleine Bégère, monsieur. Elle ne voulait pas que je vienne, parce qu'elle dit que vous jouez et qu'elle ne veut pas déranger le spectacle. Mais la forêt a insisté. Elle ne va pas bien du tout.
Madeleine ?
Nous sommes maintenant en 1672. C'est l'hiver et Paris est saisi par le froid.
Bien, voilà le registre de la grange. Ouvre-le, regarde. Année 1672.
J'y suis.
Bon, oui. Eh ben tiens, lis.
Oh, le losange noir.
Celui qui marque les deuils.
Madeleine ?
Oui. Oui. Ben, lis.
Le 17 février, Mademoiselle Béjart est morte pendant que la troupe était à Saint-Germain pour le ballet du roi où on jouait la comtesse d'Escarbagnas.
17 février 1672, c'est-à-dire un an, jour pour jour, avant la mort de Molière.
Madeleine Béjart.
Elle est morte le 17 février 1672. À quoi ressemble la fin de leur histoire ? On a, vous savez, ce cliché de Madeleine Béjart, la grande amoureuse de Molière. En fait, c'est pas si vrai. Ce sont surtout deux complices avant tout.
Oui, c'est ça. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'on n'a aucune trace d'autres amoureux de Madeleine après Molière. Il est assez troublant qu'une femme qui a connu deux hommes tels que Modène et Molière, n'ait pas eu d'autres amants dans sa vie. Je veux dire, surtout si elle était belle, comme elle l'est restée pendant longtemps. Là, c'est quand même un mystère. Mais du coup, ça permet évidemment d'inventer et de dire, elle est restée amoureuse toute sa vie de Molière, c'est pour ça que quasiment, vieille fille désormais, tout en étant entreprenante, se lançant dans le théâtre à fond et dans l'économie, en quelque sorte, devenant femme d'affaires. Mais je ne connais pas de femme d'affaires qui n'ait pas aussi des amours à côté. Donc, on ne sait pas. Toujours est-il que leur relation, elle reste la relation à l'intérieur du clan. Molière épouse Armande en 1662 et ils s'installent en fait tous dans la même maison. Ils louent un appartement dans une maison de la rue Saint-Thomas-du-Louvre, tout près du Palais Royal, puisqu'ils jouent au Palais Royal. Et on s'aperçoit qu'au troisième étage, il y a Molière et Armande. Au quatrième, il y a Madeleine Béjart et Marie-Hervé, sa mère. Et au cinquième, il y a Geneviève Béjart.
C'est vraiment très important pour comprendre Madeleine Béjart. Le clan prime surtout.
Quand vous parlez de clan, c'est d'autant plus important, cette histoire de clan, que quand Marie-Hervé meurt, la mère donc, en 1670, eh bien on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se défait. Aussitôt, Louis Béjart, qui était comédien depuis 1646 dans la troupe, aussitôt, il demande sa retraite. Il est le premier pensionné de la troupe, à 46 ans ou quelque chose comme ça, ou 45 ans, ou 44, je ne sais plus exactement, peu importe. Il rêvait d'une chose, c'est de devenir officier dans l'armée. Donc ça veut dire qu'il faisait du théâtre pour faire plaisir à sa mère, pour obéir à l'ensemble du clan. Et qu'est-ce que fait au même moment, enfin dans les mois qui suivent, Madeleine ? Elle ne peut pas demander à son tour de partir à la retraite, parce que déjà, on verse une pension au frère cadet. Mais on prépare sa succession. Quelques mois plus tard, on va engager une nouvelle actrice, qui est la fameuse Mademoiselle Beauval.
Je ne sais pas encore si Mademoiselle Beauval a un vrai talent de comédienne. Ce qui est certain, c'est qu'elle rit très bien. Elle s'exerce d'ailleurs chaque jour dans sa loge, comme une cantatrice. Si vous voulez prêter l'oreille...
Le rire est si célèbre que Molière va écrire deux scènes dans Le Faubourg du Scapin, dans Le Malade Imaginaire, même dans Monsieur Jourdain, dans Le Bourgeois Gentilhomme, où ce rire se déploie à outrance face au personnage ridicule, pour compenser la future retraite de Madeleine. Et on s'aperçoit que Molière, par exemple, il avait commencé à écrire Les Femmes Savantes, le rôle de Béline pour Madeleine, et bien ce rôle va passer à la Beauval. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'est brisé dans le clan avec la mort de la mère tutélaire du clan. Il faut bien savoir que cette mère tutélaire, c'est que quand même, elle a été la mère adoptive de Molière depuis 1643. Hein, quand la troupe se constitue, elle est là, la mère. C'est elle qui cautionne avec sa maison de la rue de la Perle une partie des investissements qui sont faits pour créer l'illustre théâtre. Et Molière, il n'a plus de mère depuis l'âge de 10 ans. Sa nouvelle famille...
Il est intégré au clan.
Ah voilà, mmh. C'est les Béjart. Et la mère, c'est Marie Hervé.
Marie Hervé est morte 2 ans avant sa fille, Madeleine Béjart. L'une et l'autre ont passé leur vie sur scène à jouer toutes sortes de caractères féminins qui ont fait rire les femmes. L'ingénue, la servante, la précieuse, la savante, la bru ou l'intrigante. Des rôles écrits par Molière.
Prenons, si vous voulez bien, l'inventaire des costumes de théâtre dressés après la mort de Madeleine.
Ah oui. Encore de paysannes, de toile d'argent et la jupe de satin vert de Gênes, garnie de guipure, prisée 30 livres.
Nérine,
peut-être.
Une jupe et une tavaillole de satin rouge et vert, usage de bohémienne.
La bohémienne du mariage forcé que consulte Sganarelle.
C'est sa mère. Allez, reprenons l'inventaire.
Un habit, maintenant, un habit de taffetas couleur de chair.
Ah là.
Mais si, la naïade des fâcheux.
Souviens-toi, au château de Vaux, Madeleine Béjart sortant des eaux dans une coquille et y récitant le compliment au roi, hein?
Pour voir en ces beaux lieux le plus grand roi du monde mortel, je viens à vous de ma grotte profonde.
En conclusion de ce 3e épisode, même si les historiens ne peuvent s'aventurer à décrire avec précision la nature de leurs relations et de leurs sentiments, il faut insister, je crois, sur la présence solaire et rassurante de Madeleine Béjart tout au long de la vie de Molière. Ce n'est que lui rendre justice. Leur complicité fut sans doute étincelante et indéfectible. Cette connivence, cette affinité élective furent assurément une force sur le champ de bataille de cette impitoyable guerre des théâtres que les troupes de comédiens ont menées entre elles à Paris sur la seconde moitié du XVIIe siècle. C'est l'horizon du prochain épisode.
Laisse gronder tes envies. Ils ont beau crier en tout lieu, qu'en vain tu charmes le vulgaire, que tes vers n'ont rien de plaisant, si tu savais un peu moins plaire, tu ne leur déplairais pas tant.
Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Toute notre équipe vous remercie pour votre attention. Bon après-midi.
Molière, Le chien et le loup. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Assistance éditoriale, Estelle Gap. Documentation sonore, Clary Monac. Mixage, Basile Bocquer. Prochain épisode, La guerre des théâtres. Molière, Le chien et le loup est un podcast original de France Inter avec la Comédie Française.